Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France.
Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission radiophonique de la Grande Loge Mixte de France. Au programme ce dimanche matin d'août, des coups de cœur, des coups de gueule, de la musique aussi, et des ouvrages. Été, prise de conscience et littérature, c'est le titre de cette 119e édition de Pierre de Touche. Alors, pour commencer, Isabelle Chibat nous propose un coup de cœur littéraire, Romain Gary et La promesse de l'aube, dont nous avons déjà parlé dans cette émission, notamment autour du dernier ouvrage de Delphine Horviller, Il n'y a pas de hasard, que Michel Baron avait beaucoup apprécié. Isabelle Chibat.
Bonjour à tous. En cette période estivale, je vais vous présenter un chef-d'œuvre littéraire et un coup de cœur intemporel. Il s'agit du roman publié par Romain Gary, de son vrai nom Romain Katsaf, pour la prononciation polonaise, en 1958, et qui s'intitule « La promesse de l'aube ». La promesse de l'aube qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2017 avec Pierre Niney dans le rôle titre et Charlotte Gainsbourg dans le rôle de la mère de Romain Gary. Alors, La promesse de l'aube est un chef-d'œuvre absolu dans la mesure où ce roman mêle poésie, philosophie et instant de grâce lié au souvenir par rapport à la mère, cette mère, la mère de Romain Gary, qui était tellement aimante qu'elle avait de grandes ambitions pour son fils. Elle lui disait « Tu seras ambassadeur, mon fils, tu seras d'annuncio, tu seras un très grand homme. » Et porté par l'amour infini de cette mère, Romain Gary va restituer tous les souvenirs qu'il a avec elle et comment il a pu sublimer les espérances de sa mère et même dépasser les espérances de sa mère. Alors, il y a des passages comme ça qui sont mythiques et qui ont forgé la légende de Romain Gary. Il faut savoir que Romain Gary, c'est le seul auteur qui a pu avoir le prix Goncourt à deux reprises. La seconde fois qu'il a obtenu le prix Goncourt, c'était sous son pseudonyme Émile Ajar. C'est le roi de la mystification, Romain Gary. Alors, je vais vous lire déjà l'incipit, donc la première page du roman, qui est absolument exceptionnel dans la mesure où le narrateur, qui est aussi l'auteur, se trouve sur la plage de Big Sur en Californie et la nature se mêle à une certaine sensualité et à l'ivresse en fait du souvenir. Voilà ce qu'écrit Romain Gary. C'est fini. La plage de Big Sur est vide et je demeure couché sur le sable à l'endroit même où je suis tombé. La brume marine adoucit les choses. À l'horizon, pas un mât. Sur un rocher, devant moi, des milliers d'oiseaux. Sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué. Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi. Encore un peu, et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier. À 44 ans, j'en suis encore à rêver de quelques tendresses essentielles. Il y a si longtemps que je suis étendue sans bouger sur la plage que les pélicans et les cormorans ont fini par former un cercle autour de moi et tout à l'heure, un phoque s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds. Il est resté là un long moment à me regarder, dressé sur ses nageoires et puis il est retourné à l'océan. Je lui ai souri, mais il est resté là, grave et un peu triste, comme s'il savait. Et suite à cet incipit, on a un flashback, donc un retour en arrière, où Romain Gary évoque en fait le souvenir de sa mère qui devait se rendre à Salon de Provence, hein, la base aérienne où était alors Romain Gary. Il faut savoir que ce roman est une mystification en lui-même, c'est-à-dire que Romain Gary prend le lecteur à témoin, donc nous sommes, nous, pris vraiment à témoin de ce qui se passe dans son existence. Donc il est muté, donc il fait la Seconde Guerre mondiale, donc il va en Afrique, il y a se mêlent à la fois des souvenirs d'ordre militaire et des souvenirs liés à l'enfance, notamment le souvenir de Valentine, son amour d'enfance, qui était une petite fille absolument adorable physiquement, mais qui lui a fait faire, on va dire entre guillemets, des exploits hein, pour qu'elle puisse s'intéresser à lui. Mais il y a ce moment littéraire, et qui est devenu mythique, dans lequel l'auteur nous livre sa réflexion sur le rapport à la mère. Cette mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont l'amour était tellement envahissant et oppressant, hein, que le jeune Romain Gary avait l'obligation, finalement, de réussir. Et voilà ce qu'il écrit. « Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. » On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours. Toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus que des mirages. Vous avez fait dès la première lueur de l'aube une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà vécu. En réalité, peut-être avec Albert Cohen, hein, qui a écrit le livre sur ma mère, il n'y a aucun autre auteur qui a pu parler aussi précisément et aussi justement de l'amour maternel que Romain Gary. Romain Gary, qui n'a véritablement jamais pu se remettre hein, de la perte de sa mère puisqu'il s'est suicidé, peu après Jean Seberg, qui était son épouse, une vie finalement à l'image de son existence, une comète, encore une fois littéraire, qui, par la fulgurance de son écriture, nous a foudroyé le cœur et nous foudroie toujours encore. Et c'est là, sans doute, le secret de son génie.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Et Jacques Brel complétait cette chronique avec, évidemment, vous l'aurez reconnu, « Ne me quitte pas ». Pierre de Touche. Maintenant, place au dernier épisode de la série que notre chroniqueuse Mufanwe Thomas consacre à Annie Besant, franc-maçonne de l'ère victorienne, particulièrement investie en Inde, maçonne entre tradition et modernité durant l'ère victorienne.
Bonjour. La semaine dernière, j'ai parlé de la première partie de la vie d'Annie Besant. Nous revenons à sa vie maintenant en 1993, quand Annie entreprend son premier voyage en Inde pour une longue série de conférences. Ce voyage était un triomphe. Elle décide de s'y installer et d'y importer ses luttes féministes. Le pays est gouverné par la Grande-Bretagne qui lui impose la loi. La reine Victoria est l'empresse de l'Inde. La reine adore l'Inde. Elle appelle l'Inde le joyau de ma couronne. The India is the jewel in my crown, elle disait. Annie a le bon sens de ne pas se permettre de critiquer immédiatement les coutumes qui pèsent sur les Indiennes, telles que le mariage précoce ou l'interdiction faite aux veuves de se remarier, mais pas aux veufs de se remarier. Elle œuvre plutôt pour un renouveau culturel et spirituel hindou. Elle s'installe définitivement en Inde en 1895 pour poursuivre ses études en théosophie. Et ses écrits portent sur l'importance de l'éducation des filles et la nécessité d'abolir le mariage précoce. Elle se révélera une missionnaire infatigable de théosophie. Quand la fondatrice de la théosophie, Helena Blavatsky, meurt, il y aura une lutte entre deux hommes pour lui succéder. Un colonel Olcott, installé en Inde, est élu après une scission. Il mourra en 1907 et Annie Besant lui succédera à la présidence internationale de la Société théosophique et sera constamment réélue jusqu'à sa mort en 1933. Elle s'installe à Adyar, le quartier général de la théosophie, et supervise l'agrandissement du centre, tout en continuant un programme de conférences partout dans le monde. Elle voyage hors Inde pendant les mois les plus chauds. Pendant ses longs voyages par bateau, elle étudie le sanskrit et les textes sacrés hindous. Elle cite le Bhagavad Gita. « L'homme ne conquiert pas sa liberté en s'abstenant de toute activité. » Ce n'est pas en renonçant à agir qu'il s'élève vers la perfection. En 1912, elle écrit « Consacrez-vous totalement au service, sans que rien ne vous retienne. » Fidèle à ses croyances, en 1908, elle lance l'Ordre de service théosophique, qui existe toujours. Son devise est « L'union de ceux qui aiment au service de ceux qui souffrent ». Cet ordre a quatre objectifs. Réduire la quantité de malheur dans le monde. S'oubliant en travaillant pour les autres. À l'égoïsme qui gouverne ce monde, substituer l'amour. vivre au plus haut de nos possibilités. Le choix qu'elle a fait de suivre principalement la voie de l'action s'affirme à partir de 1913, quand elle s'engage pleinement dans la lutte politique pour la libération de l'Inde. Mais entre-temps, il y a l'histoire de Krishnamurti qu'il faut mentionner. Dès 1897, Annie Besant rappelle que l'humanité désire intensément adorer un être. 2 ans plus tard, elle donnera une série de conférences sous le titre « Les avatars ». Le mot « avatar » signifie « descendre » dans le hindouisme et le bouddhisme. Pour les théosophes, un avatar est l'incarnation humaine du principe divin descendu afin de répandre un enseignement destiné à guider l'humanité dans son évolution. Krishna, Bouddha, Zoroastre, Jésus et Mohammed sont considérés comme des avatars ou des éclairés. L'ancien avatar de la théosophie en Inde était Maître Maitreya. Il était également une divinité du bouddhisme traditionnel. Les théosophes croyaient que cet avatar va choisir un véhicule, un humain suffisamment pur pour s'incarner de lui et de s'exprimer par sa bouche. Il y découvre 2 jeunes frères, Krishnamurti et Nitya, âgés de 16 et 12 ans, dont le père est un théosophe et un magistrat à la retraite. Leur mère était décédée 4 ans auparavant. Le centre théosophique les héberge afin de les éduquer. En 1910, Annie les adopte avec l'accord de leur père. Mais cette adoption est vue par les brahmins orthodoxes comme une occasion de nuire à la théosophie. Un procès est intenté contre Annie Besant. Elle assure sa propre défense jusqu'aux plus hautes cours civiles à Londres. En mai 1914, elle finit par avoir gain de cause et repart pour l'Inde. Krishnamurti et Nitya restent en Angleterre pour finir leur éducation. La guerre mondiale va la séparer de ses fils adoptifs pendant 5 ans. Elle a le temps maintenant de reprendre la lutte politique pour la libération de l'Inde. Elle ne délaisse pas ses réformes éducatives. Elle décide de fonder un lycée hindou pour que culture et tradition soient transmises en accord avec les valeurs théosophiques. Elle y retrouve le plaisir d'enseigner. Et parmi les jeunes qu'elle influence est le futur premier ministre de l'Inde, M. Nehru. Nous allons nous arrêter là pour le moment et la prochaine partie sera dans la prochaine émission de Pierre de Touche. Bon dimanche.
Franc-maçonnerie et devenir de la planète, c'est sur ces sujets que Félix Nathalie nous fait part de ses réflexions chaque mois. Depuis plusieurs semaines, il revient sur ce bien si précieux qu'est l'eau. Voici le 4e opus de la série, Félix Nathalie.
Rappelle-toi comme elle est belle.
Lors de notre dernier rendez-vous, nous avons pu voir que la France a beaucoup de réserves en eau. Elle est riche de 200 milliards de mètres cubes. L'imaginer relève du défi cognitif. Mais nous avons vu également qu'elle n'en a peut-être pas suffisamment. Je vous propose aujourd'hui d'étudier les réalités pratiques de cet état de fait. Quelle est donc la situation hydrologique de notre pays ? Emma Aziza, hydrologue et chercheuse au CNRS, explique que si la France est un pays tempéré et n'a jamais manqué d'eau, elle est également le pays qui se réchauffe le plus vite au monde, comme le montrent 2 études de novembre 2022. Le manque d'eau peut donc arriver très vite. La France, à l'image de la Californie, devient plus aride. Même dans les Hauts-de-France, le nombre de jours d'ensoleillement devient une anomalie. Les choses basculent. Certains scientifiques avancent que la France serait exposée à ce phénomène en raison de sa très longue frange atlantique. Les pays riches en eau reçoivent de la vapeur d'eau par les flux des vents dominants. Le Brésil, par exemple, est riche en eau car toute l'eau qui vient de l'océan Atlantique y est poussée par les vents pour se recycler via l'Amazonie. C'était la même chose pour la France, mais la situation change. Et là où autrefois il y avait des dépressions, il y a aujourd'hui des anticyclones. les choses changent de sens et l'eau arrive en moindre quantité. Il faut donc se préparer à un manque d'eau. Et sur le terrain, comment cela se traduit-il ? De manière très concrète, malheureusement. Cette année, plusieurs départements ont connu des sécheresses hivernales. Au mois de mars, il y avait deux fois moins d'eau que ce qu'il doit y avoir en mars. Il y a donc un problème quantitatif. L'enjeu est de taille. L'eau est trop prélevée, trop polluée, trop gaspillée. En 2005, deux communes avaient été touchées par le manque d'eau et un plan de communication avait été mis en place. En 2022, on a dépassé les 1300 communes touchées par le manque d'eau. 700 communes et 95% des départements ont été placés en alerte sécheresse. C'est exponentiel. Ce processus s'accélère, mais il n'est pas récent. Le maréchal Lyautey disait « Gouverner, c'est pleuvoir ». Plus près de nous, dans les années 70, René Dumont prédisait déjà le manque d'eau. En 1974, c'est le premier candidat à s'être présenté à l'élection présidentielle en France en portant un message dédié à la défense de l'environnement. Avec 0,34% des voix, on ne peut pas dire qu'il a été vraiment très écouté. En 1976, une importante sécheresse sévit en France. Certains hommes politiques appellent à modérer l'utilisation de l'eau et le gouvernement de Jacques Chirac crée un impôt sécheresse. On comprend que le manque d'eau est un sujet grave puisque 2 millions de contribuables français voient leur impôt sur le revenu augmenter de 10%. Les Français sont obligés de cotiser pour aider les agriculteurs. En 1989, c'est en plein hiver que la sécheresse frappe. Il ne pleut pas entre les mois de novembre et le mois de février. Aux demandes de restrictions d'eau, le gouvernement de Michel Rocard ajoute une campagne d'information et de sensibilisation à la rareté de l'eau. C'est l'opération Zébu. De nos jours, la France connaît régulièrement des épisodes de sécheresse. Certains chercheurs pensent que les épisodes extrêmes telles que la sécheresse de 1976 ou celle de 1989 pourraient devenir la norme. Aujourd'hui, les constats sont frais. Et nous aurons l'occasion de parler ici des solutions. Il y en a. Le barrage de Sivens dans le Tarn, les méga-bassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, mais pas seulement. En juillet 2022, dans le département de l'Ardèche, un bassin de rétention d'eau prévu pour lutter contre les incendies a été prélevé de 400 mètres cubes. Oui, la guerre de l'eau existe bel et bien aussi chez nous, en France. Alors, interrogeons-nous sur nous-mêmes. Où est notre vision ? Comment se fait-il que nous ne soyons capables d'agir qu'une fois que les catastrophes sont arrivées ? Et pour agir, faudra-t-il attendre un nouvel épisode cévenol comme à Vaison-la-Romaine en 1992 ? Une nouvelle canicule comme en 2003 ? Une nouvelle sécheresse comme en 2022 ? Ce manque d'anticipation est coupable, et la réponse ne vient pas que de nos gouvernants, de nos industries ou de nos agriculteurs. La réponse est en chacun de nous. Le 30 mars dernier, le président de la République a présenté un plan eau pour faire face aux pénuries, un plan de sobriété. Objectif à 2030, faire 10% d'économie d'eau sur tous les secteurs. Mais les assises de l'eau de juillet 2020 proposaient déjà des réductions d'eau, des réductions d'utilisation de l'eau. Qu'en est-il ? A-t-on agi ? Est-ce suffisant ? Nous avons fait beaucoup d'efforts pour éviter les coupures d'eau, électricité cet hiver. Elles n'étaient pourtant pas certaines. Les coupures d'eau des étés qui arrivent sont quant à elles déjà certaines. Il nous faut donc faire de gros efforts pour les éviter à l'avenir. En mars 2023, l'ONU a rassemblé une conférence sur l'eau. Les engagements y ont-ils été pris ? Puisque, on le comprend, le réchauffement climatique n'a pas de frontières. Alors, pour notre prochain rendez-vous, à l'image de l'article 2 de la Constitution de la Grande Loge Mixte de France, je vous proposerai de sortir du cadre français dont nous avons parlé aujourd'hui pour aborder les enjeux de l'eau dans le monde. Car oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
Et voici l'heure de retrouver Michel Baron pour une chronique psychophilo-estivale qui fait l'éloge de la sieste philosophique. Mais d'abord...
Bonjour. Vive la sieste philosophique. Notre réflexion part d'un formidable livre du philosophe chinois Chuang Tzu, qui s'intitule « Une plaisante sieste philosophique dans le hameau de la vacance absolue » aux éditions Moonbarren. Quel plaisir de l'âme de se laisser aller aux réflexions philosophiques d'un des plus grands penseurs taoïstes chinois sur le sens de la destinée de l'homme. Plus de tensions, plus de questions métaphysiques insolubles, juste le bonheur de la contemplation des choses et le manque total d'autres ambitions. Plus ça va, plus je pense que les éditions Moonbarren sont dirigées par des magiciens. En dehors de la présentation originale de leurs ouvrages, reliés par une ficelle à la chinoise, ils présentent une sélection étonnante de penseurs, philosophes et poètes chinois et japonais, avec bien entendu la joie d'en avoir en face le texte en chinois ou en japonais. Un grand moment de quiétude s'annonce dès que l'on ouvre ses ouvrages. Un parfum de la pensée asiatique. Là, Chuang Tzu, l'un des fondateurs de la pensée taoïste, très critique vis-à-vis de Confucius qu'il trouve trop rond de cuir, trop dans un idéal administratif et figé, n'y va pas de main morte. À travers des aphorismes et des petits textes de réflexion, il nous dit que tous les hommes ne sont pas tenus à se mêler aux affaires du monde. Il en est de même qui atteignent un tel degré de maturation intérieure qu'ils pensent que le monde peut bien se débrouiller tout seul et continuer à tourner sans se mêler de la vie politique pour la réformer. Nous sommes là en plein dans la théorie et la pratique du Wu Wei taoïste, du laisser-faire, du lâcher-prise. Cela ne veut pas dire un instant qu'il reste inactif ou serait purement critique. Seul le fait de travailler en soi-même au but supérieur de l'humanité justifie une telle retraite. Même quand le sage se tient éloigné de l'agitation du monde, il crée des valeurs collectives humaines pour l'avenir. À l'abri de l'agitation infructueuse, prenant racine dans l'illusion et la bonne distance de l'éloignement du pouvoir, il peut même se permettre de donner des conseils aux dirigeants. Tiens, je ne résiste pas de relever cette pensée-là. Concernant le gouvernement du roi sage, ses actes comblent le monde, mais il n'apparaît pas comme en étant l'auteur. Son influence métamorphose les 10 000 choses, pourtant les gens ne sentent aucune dépense envers lui. Tiens, juste une petite pensée pour le plaisir. Quand l'homme de vertu se repose, il ne réfléchit pas. Quand il agit, il n'a pas d'arrière-pensée. Il n'a que faire de la distinction entre vrai et faux, entre beau et laid. À partager avec autrui, à l'intérieur des 4 mers, il trouve son bonheur. À aller au-devant du besoin des autres, il trouve la paix. Avec notre auteur, ni promotion, ni honneur. Il laisse chaque chose trouver son propre accomplissement. Il se meut dans l'insondable et vagabonde dans la région du rien. Vaste programme pour les prochaines élections. bon dimanche.
Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France.
Autre coup de cœur littéraire, Pierre-Yana a choisi Babylon Berlin, une chronique en deux parties. Je vous laisse découvrir.
Dans la série Les livres de l'été, Volker Kutscher, Babylon Berlin, Le poisson mouillé, une enquête berlinoise, aux éditions Nouveau Monde, dans la collection Sans froid. J'aime l'Allemagne, comme beaucoup d'entre nous, certes pas l'Allemagne nazie, ce monstre, ni même l'Allemagne d'après-guerre, qui a chassé ses vieux démons dans une médiocrité mercantile pour expier ses péchés vis-à-vis de l'Europe, mais l'Allemagne d'avant-guerre, éblouissante, voluptueuse, pleine à la fois d'innovations, comme le Bauhaus, le cinéma de Sternberg, l'expressionnisme et tant d'autres choses magnifiques. C'est l'Allemagne de la République de Weimar qui viendra buter sur la victoire du nazisme en 1933. Les romans de Volker Kutscher, Le poisson mouillé et La mort muette, qui forment l'ensemble Babylone-Berlin, nous plongent dans cet univers étrange. L'Allemagne a perdu la guerre, mais sans avoir conscience de sa défaite. Elle est accablée par un tribut de guerre très lourd et donc ne peut raisonnablement pas s'occuper de ses gueules cassées, des familles de ses soldats morts au feu et de son redressement. Des films comme L'Ange bleu de Sternberg, qui fait émerger la merveilleuse Marlène Dietrich, ou Aime le maudit de Fritz Lang, racontent cet univers. Le docteur Mabuse aussi. Nous avons ici présenté les romans de Philippe Kerr, il y a quelques mois, qui plongeaient aussi dans cette période trouble. Le jeune commissaire Gereon Rath, qui vient de Cologne, atterrit au service des mœurs à l'Alex, l'Alexanderplatz, le siège de la police berlinoise. Il est le fils d'un ponte de la police allemande et il est affecté à Berlin pour des raisons qui seront explicitées dans le second roman. Gardons donc le mystère pour l'instant. Berlin est en proie à des conflits complexes. D'abord les communistes. Il y a eu en 1919 une tentative insurrectionnelle rouge emmenée par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ces deux dirigeants historiques alors assassinés par un gouvernement social-démocrate, ce qui provoque une fracture insurmontable entre socialistes et communistes, à l'origine, bien sûr, de la victoire en 1933 du troisième larron, le nazisme. Mais en 1928-29, qui est la date du roman, les communistes sont encore assez forts pour mener des manifestations insurrectionnelles, en particulier le 1er mai. Et les communistes sont portés par l'URSS voisine stalinienne. Parmi les exilés communistes en Allemagne, il y a aussi des trotskistes, ennemis bien sûr des soviétiques, et ils sont persécutés par les staliniens. Il sera question de lutte entre clans, arbitrée par l'ambassade soviétique à Berlin, et par des armées rouges secrètes. Il sera aussi question de trafic pour tenter de renverser Staline et financer les trotskistes. On n'oubliera pas deux choses. D'une part, que la République portée par les libéraux et les sociodémocrates a les communistes comme adversaires résolus. Ces derniers inaugureront d'ailleurs les premiers camps de concentration nazis en 1933. D'autre part, communistes, sociodémocrates et nazis ont tous un drapeau rouge comme emblème. Il faut s'en souvenir. Ensuite, après les communistes, les nazis. À l'époque, ils agissent dans l'ombre. Ils tissent leurs liens en secret parmi les conservateurs militaires revanchards, prêts à faire le coup de main, le coup d'État, y compris avec l'aide de l'État stalinien. Leurs adversaires sont tous les autres, et surtout les juifs,
qui, sorti du ghetto au XIXe siècle grâce à la Révolution française, commence, pour certains, à occuper des places importantes dans la République. Le commissaire Gereon Rath aura à enquêter sur l'assassinat de l'un de ses chefs, juifs, par d'étranges adversaires. Le troisième univers est celui de la police elle-même, traversée par tous ses courants et par les luttes de clans. Dans ses enquêtes, Gereon Rath est accompagné, soutenu même, par une jeune dactylo, vite devenue auxiliaire de police, Charlie. Elle est belle, elle est vive, elle est intelligente. Et Rath aura très vite avec elle une aventure, mais c'est un personnage clé pour le roman. D'une part, elle est issue de milieux pauvres et déshérités de Berlin, une sorte de lumpenprolétariat, lui dit Karl Marx, prolétariat en haillons, qui permet au roman de faire le lien entre les très pauvres et les très riches, croisés par Rath lors de ses enquêtes. En outre, Charlie, qui doit faire vivre sa famille, ses sœurs, sa mère, se prostitue toutes les nuits auprès d'hommes aisés dans la grande brasserie Mocha Efti, boîte à la mode, où l'on danse, se rencontre, où se nouent les affaires et les complots. Ici, l'on rencontre la pègre, comme dans toutes les boîtes berlinoises, où vont se croiser les milieux interlopes, les homosexuels, les lesbiennes, les travestis, bref, la foule des cabarets berlinois si inventifs. Gereon Rath opère avec son collègue, commissaire aussi Bruno Voltaire, qui est un personnage bonhomme, mais étrange, à multiples facettes, très ambigu, et d'ailleurs ses retournements sont l'une des clés du roman. Chacun de dévoiler progressivement les raisons de sa présence ici. Mafieux, proxénètes, soldats, policiers, danseuses, communistes, nazis, ces milieux se mélangent, se confondent, et l'on comprend peu à peu, c'est l'art du polar bien entendu, que cette faune explorée par Rath et Charlie est hétérogène. Justement, elle est la fange dans laquelle le nazisme fait son lit, dans un besoin d'ordre et de revanche. Rien n'est joué. Le poisson mouillé, c'est une vieille affaire qui ressort. À Rath de la découvrir. Deuxième partie au prochain numéro. À lire, ce sont des très bons polars. Bon dimanche.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. Zu Asche. Doch noch nicht jetzt. Zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunde warten, doch noch nicht jetzt. Wunde warten bis zuletzt. Das bloße Haschen nach dem Wind, wer weiß es schon genau. Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du trost nun deine Wahl. Wirst uns zwischen Glück und Qual, doch kann ich dir verzeihen.
illustrer le propos de Pierre-Yana, Tsu Ashe, Tsu Sao, de ses dirigeants. Pierre de Touche. Alors, nous l'avons dit, la littérature est à l'honneur en ce dimanche d'août. J'ai tant rêvé de toi, le poème extrait du recueil Corps et biens de Robert Desnos, c'est le deuxième coup de cœur d'Isabelle Chipat.
En ce mois d'août, je vous propose un instant poétique et je vais vous présenter un poème de Robert Desnos qui s'intitule « J'ai tant rêvé de toi » et qui fait partie du recueil Corps et biens, publié en 1930. C'est un poème légendaire dans la mesure où Robert Desnos a été retrouvé mort à Theresienstadt, hein, qui était un camp de concentration. Donc il y a deux infirmiers qui ont retrouvé dans sa poche une version écourtée de ce poème mythique. Il faut savoir que Robert Desnos a continué à écrire même quand il était dans les camps. Alors Robert Desnos, petit retour en arrière, hein. Robert Desnos a très tôt intégré les mouvements avant-gardistes à Paris, hein, en matière de poésie, et avant de rejoindre le mouvement surréaliste. Le surréalisme, c'est ce mouvement qui divinisait totalement la figure féminine, tout en privilégiant les associations d'idées insolites. Associations d'idées qui sont favorisées par ce que l'on appelle l'écriture automatique, que Robert Desnos a beaucoup expérimenté. Donc l'écriture automatique était permise grâce à cet état, enfin à l'expérimentation de ce qui se passait dans l'esprit du poète entre l'état de veille et de sommeil. Alors ça a rejoint à peu près ce que l'on appelle les cadavres exquis, hein, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on tire au sort des mots pour façonner des vers surprenants et poétiques. Donc je vais vous lire ce poème qui est dédié à la mystérieuse qui n'est autre qu'Yvonne Georges, qui ne l'a donc jamais aimée. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Ô balance sentimentale! J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de l'amour et de la vie. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être et pourtant qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre, cent fois que l'ombre, qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Alors voyez que c'est sans doute un poème qui a inspiré Jacques Brel, hein, dans la chanson « Ne me quitte pas », dans la mesure où il y a « Ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien ». Il y a cette idée de dissolution du poète dans l'image de la femme qui est matérialisée par l'image du soleil. Ce soleil qui est indéfinissable et surtout inaccessible pour le poète, mais que seul le mot poétique finalement peut atteindre. Alors, l'histoire de Robert Desnos est tragique, hein, il était résistant, il a été dénoncé, et puis il était juif, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et notre pauvre poète est mort tragiquement, mais son histoire perdure à travers ses mots et nous donne quelque part l'image, ou en tout cas le rêve, de ce que peut être l'idéal dans un monde de barbares. Oh, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. In time
so much.
Pour illustrer, Unchained Melodies, la bande originale du film Ghost, The Righteous Brothers. La chronique internationale ce dimanche matin nous amène en Égypte, un pays central du Moyen-Orient. C'est ce dont nous parle William Press pour cette chronique internationale.
L'Égypte occupe une place à part dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Avec plus de 109 millions d'habitants, c'est le pays de la région qui a connu la plus forte croissance démographique en moyenne période. Le pays qui recensait 26,6 millions d'habitants en 1960 a vu sa population croître de plus de 410% en 61 ans. Sa culture et son histoire sont connues dans le monde entier. L'Égypte est un pôle de stabilité de la région. Elle joue un rôle important en raison de son action en faveur de la paix. En 1979, c'est l'un des premiers signataires des accords de paix avec Israël. Environ 43% des Égyptiens vivent dans des grandes villes. Le taux de natalité en Égypte est de 28,8 pour 1000 fin des années 2020. Il est de 11,2 pour 1000 à cette même période pour la France. L'indice synthétique de fécondité est de 3,29 enfants par femme en Égypte, 1,84 en France et 1,54 enfants par femme en Europe. La croissance de la population égyptienne des 5 dernières années est de 7,5%. Celle de la France sur cette même période était de 3,2% et celle de l'Europe de 3%. L'Égypte est une république présidentielle dans laquelle le pouvoir est concentré aux mains du président de la République, Abdel Fattah el-Sissi, de l'armée et de la police. Son gouvernement est régulièrement accusé de violation des droits de l'homme. Restriction de la liberté de la presse, limitation de la liberté d'expression et d'association, emprisonnement des opposants, torture et fraude électorale. La période du Ramadan, de mars 2023 à avril 2023, a mis en lumière la vulnérabilité des Égyptiens face à l'inflation des prix alimentaires. Les populations les plus pauvres et une partie des classes moyennes ont modifié leurs pratiques au cours du mois sacré. Beaucoup ont dû réduire la consommation de certains produits, notamment de la viande. Le kilo de bœuf est passé de 4,9 euros en 2022 à 7,7 euros en 2023. Les familles aisées ont renoncé à organiser les banquets de charité et iftar ouverts à tous pour la rupture du jeûne. L'inflation en Égypte est très marquée depuis février 2022 et les débuts de la guerre en Ukraine, notamment sur le prix des céréales et du pain. En 2021, plus de 75% des importations de blé et de farine provenaient de Russie et d'Ukraine. La production locale de 20 millions de tonnes par an couvre moins de la moitié des besoins de consommation. Une étude en 2022 de l'International Food Policy Research Institute démontre que 47% des Égyptiens ont été contraints de réduire leur alimentation et 70% d'entre eux ont choisi des produits moins chers et moins nutritifs. Au sein de la population, 67% des plus pauvres se trouvent dans des espaces ruraux. Ils consacrent plus de la moitié de leurs revenus à l'alimentation. À intervalles réguliers, la question de la sécurité alimentaire s'impose parfois brutalement dans la société égyptienne. Émeute du pain en 1977, crise financière en 2008, révolution de 2011 avec Place Tahrir, le slogan « Paix, liberté, justice sociale ». Les tensions actuelles à l'intérieur du pays et à l'extérieur, Ukraine notamment, ne font qu'aggraver une situation déjà très tendue. Le gouvernement égyptien a maintenu en place un programme de subvention alimentaire pour aider les citoyens à accéder à des aliments de base à des prix abordables. Ce programme, hérité du régime nassérien, est financé par l'État et vise à aider les personnes à faible revenu pour acheter des aliments de base tels que le pain, le riz et les légumes. Pour l'année fiscale 2023, le gouvernement a dû augmenter de 90 millions d'euros supplémentaires ce programme de subvention. Il atteint désormais 4,8 milliards d'euros. Ce système couvre 70% de la population. Il a été réformé par transfert de cash et de cartes de rationnement pour tenir compte des revenus. En même temps, le régime a diversifié son approvisionnement en blé en cherchant d'autres sources, en particulier vers la Roumanie et la Serbie. La production locale est encouragée par l'accroissement des obligations de vente du blé, sont imposées et les prix d'achat sont relevés. Le budget consacré aux achats de blé produit localement a cru de 25%. Toutefois, l'autosuffisance du pays n'est encore que de 5 mois. Beaucoup d'agriculteurs préfèrent stocker leur récolte afin d'assurer leur propre consommation domestique. L'Égypte impose aussi des restrictions aux exportations. Le pays a aussi favorisé la construction de vastes silos de stockage. À ces nombreuses difficultés s'ajoutent des pressions géopolitiques, démographiques et environnementales. Dans une situation de pénurie hydrique, 560 mètres cubes d'eau par habitant et par an, qui se rapproche dangereusement du seuil de pénurie absolue d'eau, 500 mètres cubes d'eau par habitant et par an, le seuil de stress hydrique, fixé à 1700 mètres cubes d'eau par habitant et par an, est largement dépassé. De plus, le barrage de la Renaissance, situé en amont, en Éthiopie, en cours de remplissage depuis 2023, devait atteindre à terme une capacité de 74 milliards de mètres cubes. Cet ouvrage comporte 13 turbines et va restreindre l'approvisionnement de l'Égypte. Les négociations entre l'Égypte et l'Éthiopie pour réguler le débit du Nil ont repris. Elles s'avèrent difficiles et ont déjà été interrompues plusieurs fois. Cela explique que le pays cherche également des sources non conventionnelles telles que celles permises par les usines de dessalement des eaux de mer et le recyclage des eaux usées et vannes. Les tentatives de régulation de la natalité, avec le slogan « Iftin Kefaya, deux enfants ça suffit », semblent peu efficaces. La population égyptienne continue de croître au rythme de 1,67% par an. La limitation des subventions alimentaires en fonction du nombre d'enfants ne porte pour l'instant pas d'effet significatif. L'Égypte devrait compter 140 millions d'habitants en 2035, avec une température moyenne jour-nuit actuelle, 21,36%, augmentée entre 1,5 à 4,4 degrés. Il reste à souhaiter que la sagesse des dirigeants et l'intelligence des habitants finissent par porter des résultats de manière à permettre à ce grand pays de trouver des conditions de vie sinon agréables, du moins supportables, ce qui nécessitera beaucoup d'efforts de part et d'autre. Je parie sur la concrétisation de l'espoir porté par Allah al-Wasni, égyptien écrivain contemporain. Je cite « L'Égypte est un grand pays avec une grande histoire, mais nous avons besoin d'un peuple pour construire un grand avenir. »
Pierre de Touche. Notre chroniqueur Marc Burla continue son tour d'horizon sur la laïcité et la chronique sur « La République prend ses quartiers d'été », c'est la laïcité en vacances. Et cette fois, c'est un tour du monde des États et de leur sécularisation que nous propose Marc Burla.
Bonjour. Comme promis la dernière fois, nous allons brosser rapidement le portrait du monde quant à la sécularisation de certains États au regard de notre laïcité. Si celle-ci est souvent décrite comme une spécificité française relativement à la loi de 1905, celui de ces quatre piliers qu'est la séparation de l'Église et de l'État ne nous est a priori pas spécifique. Selon les définitions, et nous verrons bien les divergences d'interprétation, la sécularisation d'un pays est le principe selon lequel les religions ne doivent pas avoir de pouvoir politique, ni influencer le gouvernement d'un pays, et réciproquement, que le pouvoir politique ne doit pas intervenir dans les affaires propres aux différentes religions. Le pouvoir séculier, du mot siècle, et le pouvoir temporel, la justice d'un État en tant que tel, qu'il faut distinguer du pouvoir spirituel, dit religieux. Mais alors, quelle différence entre sécularisation et laïcité, puisqu'il semble être question de séparation des pouvoirs spirituels et publics ? Eh bien, c'est que dans les faits, nous allons le voir à quelques exemples, la sécularisation exprime bien souvent la coexistence des pouvoirs et des institutions appelées à se réguler, alors que la laïcité demande à la puissance publique de s'en tenir à une stricte neutralité en matière religieuse, et aux religions de ne pas se déployer comme une autorité dans la sphère publique. Cette différence est essentielle, et nous y retrouvons la spécificité française. Mais passons les frontières. Plusieurs pays occidentaux se disent sécularisés, comme la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis ou encore le Canada. Mais cette sécularisation est bien celle de la coexistence des pouvoirs et des institutions. Notre grand voisin, l'Allemagne, ne considère pas la religion comme une affaire privée. Ainsi, les Allemands sont tenus de déclarer leur religion pour un impôt spécifique, souvent élevé, prélèvement des fidèles au bénéfice des cultes catholiques, protestants, juifs ou orthodoxes. À noter que l'Allemagne envisagerait d'étendre cet impôt aux cultes musulmans. Tout le monde est tenu de déclarer sa religion, signifiant qu'il est membre d'une paroisse précise. Les services fiscaux du pays collectent l'impôt religieux pour les communautés religieuses, figurant sur les fiches de paie aux côtés des prélèvements sociaux. Il est bien sûr possible de sortir d'une église, considéré alors comme non-croyant, on ne peut plus prétendre à un enterrement religieux, au baptême de ses enfants, à une place dans un jardin d'enfants, une maison de retraite catholique, protestante ou juive. L'impôt religieux n'est pas unique à l'Allemagne, il est aussi présent en Suisse, en Italie, en Finlande, en Autriche, au Danemark ou encore en Argentine, un peu plus loin. Puisque nous sommes outre-Atlantique, aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution de 1787 impose la séparation de l'Église et de l'État et garantit la liberté de culte. Il n'y a pas de référence à Dieu dans la Constitution, sauf que le Congrès des États-Unis adopte « In God We Trust », en Dieu nous croyons, comme devise officielle en 1956 pour symboliser une opposition face à l'Union soviétique athée. Et nous savons bien que les lobbies ultra sont très bien implantés en politique, je l'avais évoqué lors d'une première chronique. Lorsqu'en France, l'article 2 de la loi de 1905 déclare que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, cela n'est pas le cas dans différents pays comme le Canada, qui au contraire reconnaît toutes les religions et se place en arbitre neutre. Même constat en Belgique, avec 6 religions reconnues officiellement et où les prêtres, pasteurs, rabbins, imams perçoivent un salaire de l'État fédéral et où les édifices religieux peuvent être financés par les pouvoirs publics. En Italie, en Espagne, au Portugal, s'il y avait une séparation de l'Église et de l'État, l'appartenance au christianisme est revendiquée de différentes façons et s'inscrit dans un régime concordataire. Sur le continent africain, bien que la religiosité puisse être très marquée dans l'espace public, la laïcité est inscrite dans la constitution d'une dizaine de pays, Mali, Sénégal, Guinée, Togo, République démocratique du Congo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, République centrafricaine, Tanzanie et même Namibie. Notons encore que la Chine se proclame elle aussi laïque dans sa constitution. Pour terminer ce rapide tour d'horizon de la laïcité dans le monde, citons l'exemple de la Turquie, qui a introduit la laïcité en 1937 dans sa constitution et qui figure parmi l'un des seuls pays majoritairement musulmans à revendiquer une laïcité. Bien que le terme soit directement emprunté au français, l'application en est différente et depuis l'ère Erdogan, la religion s'immisce toujours plus dans le pouvoir avec une politique d'islamisation de la société qui compromet davantage les valeurs de laïcité. Exemple du port du voile autorisé à nouveau depuis les années 2010 dans l'administration. Chaque État décide d'instaurer et de légiférer selon sa tradition et sa conception de la place des religions dans la société. Les conséquences des différentes applications de la sécularisation sur le plan politique, civil et spirituel se répercutent par l'influence du clergé et la mainmise des religions dans la sphère sociale. Cette comparaison peut permettre de mieux saisir la portée et les valeurs intrinsèques de la laïcité lorsque nous identifions clairement les principes défendus et appliqués par la France au regard du fonctionnement dans les autres pays.
Pierre de Touche. Avant de durer cette émission, nous voudrions apporter une petite précision. Les chroniqueurs expriment dans cette émission leur réflexion personnelle et ils n'engagent pas l'obédience qu'elle âge les maires dans leur prise de position. Et il nous semblait important de le rappeler. Alors, eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci aux chroniqueurs, merci à Radio Delta, à Gilles Solière en particulier. Nous nous quittons avec Sugarman, en hommage à Sixto Rodriguez qui nous a quittés cette semaine. Bon dimanche et bel été à vous.
Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal.